En juin 2018, Jacob Desvarieux, en marge d'un concert au Nubia, dans la région parisienne, avait accordé une interview intimiste à Radio Mayuri Campus, soit 3 ans avant son décès. Au micro de Michel Plaisir dans sa loge, il retraçait sa carrière et nous parlait de son combat identitaire à travers la musique et le groupe Kassav en particulier. Je vous propose de l'écouter.
Pour Radio Mayuri Campus, à quelques minutes d'un concert que vous allez donner, Jacob Desvarieux. Déjà, je vous remercie de nous recevoir ici, dans votre loge. Déjà, bonjour Jacob Desvarieux.
Bonjour.
C'est vrai qu'on a l'habitude de vous voir sur des grandes salles, au Stade de France, notamment devant des milliers de gens. Et là, ce soir, c'est devant un public restreint, entre 300 et 400 personnes.
Oh, même pas.
Même pas, que vous allez...
80 personnes.
Voilà,
que vous allez... comme du jazz.
Oui, que vous allez jouer. Pour le coup, ce n'est pas du zouk, mais c'est du blues. On va en parler tout à l'heure du concept, du concert, de la soirée. Mais avant cela, est-ce que vous pourriez retracer pour nos internautes, les auditeurs de Radio Mayuri Campus, l'histoire du blues et peut-être le lien entre le blues et les communautés noires, puisque cette vidéo est regardée grâce à Internet partout sur la planète?
Alors, en gros, le blues, comment dire, bon, il y a une grosse question de marketing. Hein. Bon. C'était la musique, enfin, oui, c'était ce que chantaient les esclaves aux États-Unis dans les champs de coton pendant l'esclavage, sous les coups de fouet, voilà. Évidemment, c'est un peu comme disait Johnny Hallyday, par exemple, qui est un des milliers d'artistes qui ont été inspirés par ce blues.
Ouais.
Dit voilà, ça, c'est le chant ou le cri qui dit les souffrances, qui dit les peines, les espoirs, enfin, de tout un peuple qui s'est retrouvé en esclavage de l'autre côté du monde. Bon, alors, il se trouve que les premières personnes qui se sont intéressées à ça, c'était aux États-Unis. Donc, on a chanté et rechanté. Et on refait le marketing sur les champs de coton. Bon, nous, on n'est pas très loin. Hein. La Caraïbe, c'est juste à côté.
Et les gens concernés également par l'esclavage.
Oui. Les gens sont les mêmes. Ouais. Ben, ce sont les mêmes qui ont été amenés en esclavage dans les îles à côté pour faire la canne à sucre. Alors, on n'a pas de champs de coton, mais on a des champs de canne. Et c'est assez violent. Donc, c'est pour comparer les souffrances, mais de toute façon, n'importe quel homme qui se retrouve en captivité et en esclavage, il va faire le blues à sa façon, à sa sauce. Bon, alors après, c'est juste une question de comment on décline les choses. Alors moi, j'estime que la musique qu'il y a dans la Caraïbe, c'est du blues aussi, parce que ça chante les peines et les espoirs de tous ces gens-là, quoi, tous les gens qui sont là-bas. Voilà. Alors, j'estime que la musique qu'il y a en Guadeloupe, en Martinique, oui, c'est notre blues à nous. Et on le chante avec notre cœur, et c'est pour ça qu'on chante en créole, d'ailleurs, parce que... la langue maternelle, c'est la langue où on peut faire passer les émotions le plus facilement. Une langue qu'on a appris, oui, on parle la langue, on la maîtrise, oui, tout ça, mais c'est pas pareil. Si quelqu'un marche sur votre pied, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de l'insulter dans votre langue maternelle. Après, vous allez repenser que lui, il parle pas la langue, donc on va l'insulter en français, en russe, en chinois, quelle que soit la langue que vous avez appris. Voilà.
Alors, Jacob Desvarieux, comment passe-t-on du zouk dont vous avez été le fondateur, au blues?
Ouais, on passe pas, hein, c'est la même chose. C'est simplement la façon dont on appelle les choses. Alors si on dit que les Antillais, ce sont des esclaves de la même façon que ceux qui sont aux États-Unis et puis qu'ils ont souffert les mêmes choses et qu'ils réagissent de la même façon, ce qu'on fait, ça devient du blues.
Certains pourraient se sentir insultés d'entendre cela.
Ça, c'est leur problème. Les coups de fouet sont arrivés pareil sur tout le monde. Hein. Donc, je ne vois pas en quoi ils se sentiraient insultés, puisque de toute façon, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, alors, ça s'est passé sur le sol des États-Unis. Alors, évidemment, tout le monde connaît le pouvoir de l'entertainment aux États-Unis. Hein, dans les pays français ou espagnols ou autres, on n'a pas ce pouvoir-là. Bon, mais le résultat est le même.
Alors, aujourd'hui, vous mettez en avant le blues. Est-ce que pour autant, c'est une page qui se tourne?
Non, franchement, non. Disons que j'ai fait un album en 2000 où j'ai essayé de mettre pas toutes mes influences, mais pas mal de mes influences. Entre autres, il y avait le blues parce que j'ai commencé par ça.
Ouais.
Il y avait aussi certaines musiques de certains pays d'Afrique, parce que je travaillais avec beaucoup d'Africains. Il y avait des musiques que j'ai entendues dans la Caraïbe. Voilà, donc j'ai compilé tout ça, en fait, dans mes inspirations. Entre autres, j'ai fait un genre de blues, on va dire. Et il y a des oreilles qui ont entendu ça et qui ont été compatissantes. On dit, ah tiens, c'est intéressant. Là, oui.
Alors, Jacob Desvarieux, quand on vous rencontre, vous vous donnez... vous êtes quelqu'un de humble, de très grande simplicité, d'humilité également. Mais on ne peut pas oublier quand même ce que vous avez amené à la musique. Vous êtes quand même à l'origine du zouk qui a évolué en divers courants aujourd'hui. Vous avez créé également à l'origine de Kassav, ce groupe qui est connu à travers le monde, hein, qui a joué partout. On va pas énumérer et grainer les pays dans lesquels vous avez joué. Avec du recul, qu'est-ce que vous gardez de toutes ces années-là, de toutes ces tournées que vous avez réalisées et du chemin que vous avez parcouru?
Je sais pas. C'est-à-dire que c'est difficile de répondre à une question comme ça parce que c'est un métier qui rend humble. Des fois, on croit qu'on a tout réussi, qu'on est au sommet, et puis, poum, il n'y a plus rien, on tombe, voilà. Et puis, tout ce qu'on fait, on le fait parce que, voilà, sur le moment, on trouve ça bien, quoi. Ouais, c'est sympa. C'est après, il y a des journalistes qui nous rappellent, mais vous savez, vous avez joué là, tout ça, vous avez fait des trucs que personne n'a encore fait ou autre. Ouais, c'est bien, ouais, on est content. Mais, je veux pas, comment dire, je vais pas avoir la tête qui passe plus par les portes parce qu'on a eu de la chance, voilà, on a fait des trucs, oui, je pense que c'est bien, hein. Quand je réécoute aujourd'hui, je me dis, oui, c'est bien ce qu'on a fait, on a créé des trucs, mais j'étais pas tout seul d'abord, hein. On a créé des choses, on a fait avancer des choses, mais bon, tous les musiciens rêvent de faire avancer les choses, hein, de faire un petit truc en plus qui va faire que les copains, quand ils vont entendre, ils vont dire, ah ouais, ça c'est super, bon, ouais. Oui, de là détailler, franchement, il faudrait que je m'arrête et puis que je réfléchisse. Et des fois, ça arrive. Hein. On se dit, mais attends, on a fait ça, mais on était inconscient. Ou on ne se rendait pas compte. Voilà, c'est pas, on n'a pas été le faire en se disant, voilà, on va faire ça, on va aller dans tel pays, on va révolutionner le truc. Non, on l'a fait parce qu'on trouvait ça bien, simplement.
Est-ce que vous avez été animé pendant toutes ces années par une espèce d'engagement, une volonté de voir changer un certain nombre de choses dans la société? Parce que on sait que vous vous êtes associé à pas mal de causes, la cause noire, pour plus de visibilité dans les médias, et également, bon, on sait que aux Antilles Guyane, nos jeunesses sont confrontées à d'énormes difficultés, les perspectives d'avenir ne sont pas toujours évidentes. Est-ce que vous avez le sentiment que vos messages, puisqu'il y a eu tellement de chansons, que vos messages ont été entendus, est-ce que vous avez le sentiment que finalement, ce que vous avez planté a porté des fruits?
Oui, clairement. Bon, il faut savoir que, à la base, ce groupe, il est issu des mouvements identitaires. À l'époque où tout le monde se pose des questions, enfin en tout cas chez nous, qu'est-ce qu'on fait là, d'où on vient, comment ça se fait qu'on est si loin de l'Afrique, alors que de toute façon tous les Noirs viennent d'Afrique, enfin, etc. Bon, il y a eu plein de problèmes qui se sont posés, mais d'ailleurs même le nom du groupe, même l'idée même de faire ce groupe, c'est venu du fait que Pierre-Édouard Décimus, qui est le concepteur même du groupe, il jouait dans un groupe qui s'appelait les Vikings, bon, qui était un des groupes les plus cotés de la place. Et il jouait dans un hôtel et il y a des touristes qui ont dit « Tiens, c'est super votre truc, comment le groupe s'appelle ?» Et il a dit « Les Vikings ». C'est des Européens, ils se sont mis à rire. Il a dit « Ah, des Vikings, ils sont tout noirs. Bon. » Alors ça l'a vexé sur le moment. Puis après, il a réfléchi, il s'est dit « Ils ont raison. » Parce que le nom d'un groupe, c'est censé être ce que tu veux qu'on retienne de toi. Ton nom, c'est censé être, comment dire, ce que tu es. Bon, quand tu t'appelles les Vikings, tu es noir. Là, il y a un problème, quand même, il y a un souci. Au-delà du racisme, tout ce qu'on veut, mais il y a un souci quand même, parce que on te voit et ton nom ne correspond pas. Et comme on était en plein mouvement identitaire, donc il a dit, il faut qu'il y ait un nom, il faut que le groupe ait un nom qui correspond à ce qu'il est, à d'où il vient, à ce qu'il défend comme idée. Bon, on est antillais, ben voilà, il faut que ce soit un nom que, même si tu dis un japonais, un chinois, n'importe quoi, il sait que ça vient pas des États-Unis, ça vient pas d'Espagne, ça vient pas du Japon, ça vient des Antilles. Donc ça, c'était important. La musique qu'on fait, pareil, c'est-à-dire que on peut faire du rock'n'roll. Nous, on vient des Antilles. Le rock'n'roll, c'est pas la musique du coin. On a une musique, on a de la musique, puisque bon, voilà, on est issu de plein de pays africains, on va dire, en même temps, hein, qui se sont mélangés avec l'influence éventuelle des colons du coin qui parlaient soit anglais, soit espagnol, soit hollandais, soit etc. Bon, bah, il faut que ça se sente. Et puis, il faut que cette musique, contrairement à ce qui se passait à l'époque, on parlait de world music, bon, enfin, on voulait dire third world music, je pense, ils ont voulu être gentils, ils ont dit world music, c'était de la musique anglo-saxonne chantée par quelqu'un du tiers-monde, on va dire. Hein? Bon, ça, c'était la world music. Bon, nous, on n'est pas de la world music, on est de la musique des Antilles. Mm. Voilà, donc, ça doit s'entendre dans la musique qu'on fait, et puis, il faut que les gens de chez nous, les Antillais, les Guyanais, il faut qu'ils se reconnaissent dans cette musique. Mm. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on va attaquer le reste du monde. Mm. Mais c'est pas l'inverse, c'est pas on va faire numéro un dans le reste du monde, et puis après, on va revenir voir si les Antillais ou les Guyanais trouvent que ce qu'on fait, c'est pas mal. Oui, ils vont évidemment s'incliner devant le succès. Mm. Mais bon, c'est pas ça qui va être déterminant pour qu'ils disent j'aime ça ou j'aime pas ça.
Mm. Voilà. Bon. Si aujourd'hui, il n'y a aucun doute là-dessus, quand Kassav joue quelque part, ce sont des centaines de gens, milliers de gens qui se rassemblent, qui répondent à cette sollicitation, à cette demande. Et malgré cela, on a l'impression que il y a encore des choses à faire.
Oui, il y a beaucoup de choses. Bah, de toute façon, nous, bon, je disais au départ, on vient des mouvements identitaires, mais bon, on est militants. Hein. Mm-hmm. Bon, alors, militants, ça peut être avec une Kalachnikov à la main, ça peut être avec un stylo à la main, ça peut être de diverses façons. Voilà, bon, mais nous, on est musiciens, on ne cherche pas à embrigader tous les gens qui écoutent notre musique spécialement, mais n'empêche qu'on fait passer les messages qu'il faut, et on œuvre, enfin, en tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour faire avancer les choses. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont avancé, mais il en reste encore 10 fois plus à faire. Mmh. Voilà, ben, on espère que la génération qui arrive, ben, va combler aussi les manques, et puis la génération d'après aussi. Mmh. C'est comme ça que les choses avancent, hein, c'est que petit à petit, ben, vous savez, moi quand j'avais 14-15 ans, les équipes de foot en France, par exemple, il n'y avait pas de noirs. Mmh. Bon, là maintenant, des fois, il y a des blancs. Mmh. Même l'équipe de France. Bon, voilà, donc. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont avancé, il en reste encore plein, parce que jusqu'à maintenant, à part l'entertainment, le spectacle et le sport, où on est carrément surreprésenté, le reste, c'est plus compliqué. Mm. Voilà. Et nous, on se bat pour ça, on est mieux placé pour le savoir. Hein. Bon, ce serait bien que mes enfants ou mes petits-enfants, qu'ils aient comme modèle des intellectuels, des, je sais pas, de tout, quoi. Mmh. Des boulangers, des sportifs, oui, mais pas que des sportifs et des musiciens. Parce qu'ils ne veulent pas tous être sportifs ou musiciens. Mmh. Ce serait bien qu'ils voient aussi d'autres choses, quoi. Mmh.
Comment se porte Kassav aujourd'hui? Vous avez fait une pause?
Oui, alors c'est un peu.
Vous pouvez encore revenir sur scène ou.
C'est plus simple que ça. En fait, le groupe, l'année prochaine, le groupe aura 40 ans.
Vous allez fêter ça.
Alors, évidemment, on va essayer de faire une petite fête
intime.
Oh non, ce sera intime. On va faire dans une petite salle, comme c'est 40 ans. Mm-hmm. Il y a une nouvelle salle qui s'est ouverte, qui prend 40 000 personnes.
D'accord, c'est vraiment une petite salle.
Voilà. Et donc, on va fêter ça là-bas l'année prochaine. Mm-hmm. Et on s'est dit que, c'est à Nanterre. D'accord. C'est pareil. Hein. Ça s'appelle l'U-Arena. Ça a été inauguré par les Rolling Stones, d'ailleurs, je crois, cet automne. Mm-hmm. Et donc, on s'est dit, bon, pour pouvoir faire une salle comme ça, comme quand on avait fait le Stade de France, l'année d'avant, il faut se calmer un peu, il faut faire un peu moins de concerts partout, de façon à créer le manque, et puis que le jour où on annonce, alors ça va être à l'automne, je pense, quand on va annoncer ce concert-là, ben, tout le monde aura envie de nous voir, parce que ça fera un moment qu'ils ne nous auront pas vus. Donc cette année, on lève un peu le pied. Mmh. Bon, on fait d'autres choses, par exemple, là, je fais du blues.
Oui, tout à fait.
Là, Jocelyne fait un autre truc, Jean-Philippe fait autre chose. Mais on est là, bon, il y a quand même quelques concerts, mais on a beaucoup levé le pied, parce qu'aussi, il faut préparer le concert de l'année prochaine.
Mmh. On y vient justement à ce concert qui va avoir lieu tout à l'heure, où le blues sera à l'honneur, une manière aussi de faire... De prendre un petit peu, de respirer un petit peu, de se faire aussi plaisir à côté de ces grandes messes musicales. Alors, comment est né justement ce concept du blues? Vous m'aviez dit en début d'interview d'entretien que Vous avez commencé par le blues, Jacob Desvarieux. Oui. C'est une espèce de comeback, là, ce soir, ici
Oui, en fait, j'ai commencé par le blues, comme la plupart des guitaristes, enfin, en tout cas en Europe, ou aux États-Unis, parce que ça a l'air plus facile. Parce qu'on entend un gars qui fait deux notes et tout le monde dit « Waouh, c'est super bon. !» Bon, sauf les deux notes, c'est un boulot. Enfin, ouais. Bon, et donc, j'ai fait ça au début, puis après, bon, ça a évolué parce que j'ai rencontré des musiciens qui venaient d'autres horizons, jusqu'à ce que je tombe dans Kassav. Bon, voilà. Et là, quand j'ai fait cet album en 2000, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Tiens, tu devrais faire des concerts de cette formule-là. » Sauf que bon, c'était un peu compliqué, Kassav est retourné tout le temps, bon... donc j'ai profité des quelques mois qu'on a de répit là cette année pour pouvoir faire ça. Donc on a fait un festival Banlieue Bleue. Là aujourd'hui on fait le Nubia. Après on va faire Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. On va faire New York, Boston, tout ça. Je profite.
Les dates sont déjà arrêtées ?
Non, pas toutes.
D'accord, pas toutes.
Mais après il y a déjà
la Guyane demande. Par exemple.
Par exemple, voilà. On va essayer de faire ça avant la fin de l'année. Mais on essaie de caler de façon à aller dans un endroit et de faire toute la région d'un coup, quoi. Plutôt que d'aller une fois, revenir, repartir, revenir.
C'est beaucoup moins fatigant et ça, certainement, et en termes au niveau financier, pour les organisateurs, ça coûtera moins cher. Parlons-en maintenant précisément du concept. Combien de musiciens, comment cela se passe? Est-ce qu'il va y avoir plusieurs dates ici au Nubia, par
exemple? Oui, on a 4 concerts ce week-end.
D'accord.
Bon, alors, les musiciens, c'est facile, hein. On a pris la Dream Team.
Ok.
Donc, il y a Thierry Vatton au piano, Guin Sangui à la basse, Thomas Bellon à la batterie, Alan Hoist au sax, et Jerica Jacques-Gustave qui chante.
D'accord.
Voilà. Okay. Donc, là-dessus, alors, c'est...
Il y a des grands standards ou c'est que les compositions personnelles?
Oui, alors, j'ai la chance d'avoir quelques titres qui sont des standards, bon, on va les faire.
Bon. D'accord.
Et puis d'autres.
Un exemple,
aussi,
voilà.
Zoukla, c'est le médicament de nuit.
D'accord.
Alors après, c'est une question d'appréciation, je veux dire, parce que, la philosophie même du blues, c'est la même qui nous a conduit là, hein, donc on va faire des titres que j'ai écrits, et puis d'autres titres aussi, il y a des titres, de musiciens qui m'ont impressionné ou, non plus. Alors il n'y a pas tous, parce que là, il faudrait un concert de 6 heures, mais. On va faire ça cette fois-ci, quoi. Et puis peut-être que dans quelques mois, on va faire avec d'autres suggestions, d'autres apports, mais...
Oh, c'est dans une ambiance feutrée où les gens sont assis et peuvent dîner, concert dînatoire, hein, c'est une espèce de...
Oui, au début.
Alors, au début, d'accord, avant qu'ils ne se lèvent. Donc, en termes de projet pour clore cet entretien, c'est donc le retour de Kassav dans quelques mois.
C'est pas le retour, parce que dans la mesure où bon, il y a...
Ça fait les 40 ans.
Ouais. Oui, voilà, bon. On va faire un concert exceptionnel pour les 40 ans, puis on va faire une tournée mondiale derrière.
Okay.
Bon, alors on parle de retour, parce que pendant un an, on essaie de faire le moins de concerts possible, de façon justement à bien préparer cette tournée-là.
D'accord.
Bon, parce qu'il y a quelques mois, on était encore... Si vous voyez le planning de Kassav, même là, il y a 2-3 mois, on était à Londres. On joue quand même, mais on joue beaucoup moins. En général, on fait entre 60 et 80 dates par an. Bon, là.
Alors, vous voyagez tellement, vous passez aussi beaucoup de temps en Europe, à Paris. Est-ce que ça ne vous coupe pas de vos sources, à savoir les Antilles-Guyane, vos sources d'inspiration de départ d'ailleurs?
Les sources d'inspiration, on peut aller les chercher comme la psychanalyse, hein, dans la petite enfance. Bon, après, c'est sûr que le fait de se balader dans un endroit, tout ce que vous voyez peut vous inspirer. Alors, si je me balade en Afrique du Sud, j'aurai une autre inspiration que si je me balade à Trinidad. Bon, mais ce sera quand même de l'inspiration, et le résultat sera quand même quelque chose qui est fait à partir de la culture que j'ai. Oui, le reste, ce sont des apports, ce sont mais la base, de toute façon, on va se retrouver toujours en Guadeloupe, Martinique, après moi.
Ce sera ma dernière question, Jacob Desvarieux. Alors, vous chantez en créole, la plupart de vos chansons, quasiment toutes, sont en créole. Les gens ne comprennent pas vos textes. Qu'est-ce qui fait que, malgré cela, en dépit de cela, qu'ils apprécient tant vos musiques?
C'est vrai que la musique, c'est un avantage, c'est que c'est pas tant la langue que l'émotion qui fait que les gens apprécient. Michael Jackson, il y a plein de gens qui parlent couramment anglais qui comprennent pas ce qu'il raconte. Et n'empêche que, nous c'est pareil, à part les Antillais, bon, La personne ne comprend pas ce qu'on raconte. Mais elle n'empêche que, je sais pas combien d'Antillais, parce qu'on peut pas, on n'a pas le droit de les compter, mais je sais pas combien on est. Mm. Mais vu le nombre de gens qu'on déplace dans le monde, on a le droit de supposer qu'il n'y a pas que les Antillais.
Qui vous suivent, voilà, qui vont à vos concerts.
Voilà. Et dans tous les pays où on a été, voilà, on remplit des stades, on voit les gens qui chantent. Des fois, on est un peu surpris par ceux qui chantent. Bon, mais je pense que des groupes anglais, quand ils viennent en France, des fois, ils sont très surpris quand ils entendent les gens chanter leurs chansons et les mots ne correspondent pas. Il y a des sons comme ça qui correspondent, mais les mots, ça n'a aucun sens, quoi. Là, nous, on a vu dans des pays en Afrique, par exemple, ils chantaient « Zoukla, c'est un médicament de nid ». Eux, ils ont entendu « J'ai mangé un demi-kilo de riz ».
D'accord.
Bon. Voilà, mais en tout cas, le purinier, et quand c'est une chanson triste ou une chanson gay, ben, ils font la différence, quand même.
Jacob Desvarieux, mille fois merci d'avoir accueilli Radio Maïwari Campus, première radio universitaire de l'Outre-mer, implantée à l'Université de Guyane, qui fait de la transmission du savoir dans votre loge à quelques minutes de votre concert, de ce concert ici, que vous donnez au Nubia, qui fait la part belle au blues. Un concert qui va être renouvelé plusieurs soirées, au fait, et il va y avoir... Va se suivre une tournée également dans plusieurs endroits, notamment les Antilles. On suit tout ça de très près. Encore une fois, merci beaucoup et puis
merci à vous.
Bonne continuation.